Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la surprise générale, le protocole sanitaire dans les écoles sera assoupli. Le ministre de la Santé s'appuie sur des études qui montrent que les enfants seraient moins contagieux, ce qui ne rassure pas les enseignants, vous l'entendrez. Et quand les règles sanitaires en France s'adaptent au jour le jour, au cas par cas, Israël se reconfine aujourd'hui.
Oui, à partir de 14h, les Israéliens devront rester chez eux. Nous poserons la question des conséquences économiques.
Dans ce journal aussi, vous comprendrez pourquoi les téléphones portables peuvent tuer les insectes, la photo aux champs électriques.
Et puis nous nous intéresserons à un rappeur visé par une enquête pour provocation à la haine raciale et injures à caractère raciste. L'industrie musicale l'a laissé sortir son nouvel album.
De la musique, tient en fin de journal, hommage aux compositrices avec les journées du patrimoine et du matrimoine ce week-end. Et puis Frédéric Seitz se demandera s'il suffit d'être le moins pire des candidats pour gagner une élection présidentielle. Son billet politique à 8h17. Changement de protocole sanitaire dans les écoles, de la crèche aux primaires. Les enfants étant moins malades et transmettant moins le Covid-19, les fermetures de classes ne seront plus obligatoires. Le ministre de la Santé se base sur un nouveau rapport du Haut Conseil de Santé publique et Olivier Véran a donc décidé d'assouplir le protocole à Kim Kasmi.
Désormais, seuls les enfants déclarés positifs au coronavirus seront isolés chez eux. Plus question de fermer toute une classe à partir de 3 cas déclarés. Car la traçabilité était compliquée à remonter. Entre les cours en classe où le port du masque est obligatoire, la cour de récréation où certains élèves peuvent enlever leur masque par exemple pendant une activité sportive, et surtout la cantine où les enfants doivent retirer leur masque pour manger, explique le ministère de l'Éducation. Un assouplissement qui en tout cas ne rassure pas du tout les enseignants qui ne comprennent pas cette décision alors que les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter dans le pays. Guylaine David, la secrétaire générale du SNUIPP.
On a vu depuis quelques semaines là, que lorsqu'il y avait un cas dans la classe et que les autres élèves de la classe étaient testés, il y avait finalement d'autres cas asymptomatiques. Donc on a des écoles qui ont fermé avec plusieurs cas par classe. Donc on voit bien que les élèves peuvent être contaminés et peuvent contaminer les autres. On a aussi des enfants qui ont contaminé leurs parents. Donc le risque zéro n'existe pas et donc on sait qu'on va avoir des contaminations et on a des enfants qui vont rentrer chez eux, qui vont être dans la famille au sens plus large, rencontrer leurs grands-parents et qui vont pouvoir contaminer l'ensemble de la famille.
Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation, 2100 classes sont fermées dans le pays pour cause de coronavirus, soit 0,13% des établissements.
Les enfants moins isolés, mais des villes plus surveillées. C'est aussi ce qu'il faut le retenir des dernières annonces du gouvernement. Des restrictions seront annoncées pour Nice et Lyon, où les taux sont au-dessus des seuils d'alerte, seuil qui est fixé à 50 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Il est de 197 à Lyon, 146 à Nice. Des nouveaux durcissements sont également envisagés pour Marseille et la Guadeloupe si la situation ne s'améliore pas. Là, c'est tout un pays qui se reconfine. Nous l'annoncions lundi, c'est aujourd'hui qu'Israël se ferme de nouveau. À partir de 14h tout à l'heure, il sera interdit de se rendre à plus de 500 mètres de chez soi, sauf pour aller au marché, à la pharmacie ou au travail, si la profession est jugée essentielle. Pour la première fois de son histoire, la grande synagogue de Jérusalem ne pourra pas accueillir les célébrations du Nouvel An juif. Israël s'isole au moins jusqu'à la mi-octobre et le pays pourrait perdre plus d'1,5 milliard d'euros par semaine. Les effets de ce deuxième confinement seront toutefois probablement moins durables et moins violents car les marchés et la monnaie locale sont assez stables en ce moment. C'est ce qu'estime Jonathan Ben-Shimol. Il est économiste, chercheur à la Banque centrale d'Israël.
Là, on va arriver dans une période de confinement où il s'agit des fêtes de fin d'année, des fêtes du jour du grand pardon, des fêtes religieuses en Israël. Ce confinement peut mener environ à des pertes d'environ 7 milliards de shekels par semaine. Plus ou moins tous les secteurs économiques ont souffert. Il y en a évidemment beaucoup plus comme la restauration, le tourisme, tous les loisirs en fait, qui ont été fortement impactés, qui représentent un grand pourcentage de l'économie israélienne. Mais il y a d'autres aussi qui ont été beaucoup moins impactés, comme la grande distribution, l'agroalimentaire ou la high-tech. Le patient a subi une première crise et plus à même de comprendre aussi la deuxième crise, de comprendre aussi comment gérer le nouveau confinement, qui est un confinement beaucoup plus intelligent par rapport au premier confinement. Dans ce confinement, on va pouvoir laisser travailler les gens à partir du moment où ils respectent des règles d'hygiène bien définies. Il y a aussi cet effet de surprise, n'est pas là. L'économie va être touchée, évidemment, mais de façon beaucoup moins forte, normalement, que par rapport au premier confinement.
C'était l'économiste Jonathan Benchimol, interrogé par Frédéric Mettezo. Le Covid-19 encore et ses déclinaisons par pays. Notons ce matin qu'au Canada, la plus peuplée des provinces durcit ses mesures. En Ontario, les personnes qui organisent des rassemblements privés de plus de 10 personnes seront passibles d'une amende minimale de 6 400 €. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle vise Donald Trump à un mois et demi de la présidentielle américaine. Il s'agit d'une ancienne mannequin, Amy Doris, 48 ans, qui a raconté au Guardian comment le président américain l'aurait embrassée de force et touchée sans son consentement, Loïc Loury.
Les faits remonteraient à 1997 devant les toilettes d'une loge du tournoi de tennis de l'US Open. La loge de Donald Trump, 51 ans, promoteur immobilier et personnalité mondaine new-yorkaise. Amy Doris, mannequin de 24 ans, visite New York avec son compagnon. C'est à travers lui qu'elle rencontre le milliardaire. Tout de suite, dit-elle, très entreprenant, jusqu'à cette agression qu'elle raconte.
Il m'a empoigné. Il a enfoncé sa langue dans ma gorge. Et je le repoussais. Et c'est là que son étreinte s'est renforcée. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Il était comme une pieuvre.
Amy Doris se confie alors à plusieurs de ses proches, mais attendra plus de 20 ans avant de se tourner vers les médias. Les avocats du président contestent et pointent le timing de cette affaire à quelques semaines de la présidentielle. J'étais, dit-elle, fatiguée de me taire.
Je réalise qu'il s'est écoulé beaucoup d'années sans que j'en parle. Je me sens malade, souillée. Je veux que les gens sachent qui est cet homme, qui est notre président. Voilà comment il agit, et c'est intolérable.
Donald Trump accusé d'agression sexuelle ou de harcèlement par plus d'une dizaine de femmes. Je suis lassé, dit Amy Doris, de le voir s'en tirer.
Donald Trump qui, pendant ce temps, multiplie les réunions de campagne face à son rival démocrate Joe Biden. Aujourd'hui, le vote en physique, en personne, commence, après celui par correspondance. Vote par courrier qui avait fait polémique à cause d'une réforme de la poste américaine qui pourrait empêcher les électeurs de s'exprimer. La réforme a été suspendue par un juge fédéral hier soir aux États-Unis. Si vous souhaitez comprendre l'incertitude qui règne autour de cette présidentielle, vous pouvez réécouter la revue de presse internationale de ce matin sur notre site ou en podcast. On a déjà parlé de l'impact des pesticides et de la déforestation sur la biodiversité. Eh bien, voici qu'un rapport montre aussi que les téléphones portables pourraient jouer un rôle dans la mortalité des insectes. Cette étude a été menée par deux ONG allemandes et une structure luxembourgeoise, Ludovic Piétenu.
Pour les spécialistes des insectes, ce n'est nullement une surprise. Cela fait des décennies qu'ils montrent les effets néfastes des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques sur les abeilles notamment, et donc sur la biodiversité. Ce nouveau travail a été réalisé par le chercheur Alain Thiel de l'université de Fribourg, dans le Bade-Wurtemberg, tout près de la frontière française. C'est une méta-étude, cela veut dire qu'il a analysé les résultats de 190 travaux scientifiques menés dans le monde entier. Dans 60% des cas, ces études pointent du doigt le rayonnement de nos téléphones portables et des réseaux sans fil, comme le Wi-Fi, qui provoque en particulier chez les insectes, notamment les abeilles, les guêpes et les mouches, une réaction dans leurs cellules qui augmente brutalement l'apport de calcium dans leur organisme. Réaction en chaîne, leur sens de l'orientation est altéré, le rythme jour-nuit est perturbé, leur système immunitaire n'est plus aussi bon, leur capacité de reproduction diminue. Le fait que tant d'études disent la même chose devrait conduire à la prudence. Par exemple, dans un débat en cours, le développement de la 5G, estiment les responsables de NABU, cette association de protection de la nature très réputé outre-Rhin.
Un débat sur la 5G qui est effectivement électrique en France en ce moment, entre les partisans dont le gouvernement est le président de la République et les écologistes et les élus de gauche. Les Amish en colère sont dans la rue, proclamait par exemple hier une pancarte parisienne, allusion à la pique d'Emmanuel Macron dans les rues de Paris. En effet, hier, 5 à 10 000 personnes ont défilé, principalement pour protester contre des suppressions d'emplois en ce moment en France.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. 6 législatives partielles auront lieu ce dimanche dans le pays.
Oui, avec une certaine pluralité dans les enjeux, car sur ces 6 circonscriptions, un mandat, La République En Marche, 2 Les Républicains, 2 partis socialistes et 1 communiste sont en jeu. Ces élections partielles sont dues au non-cumul des mandats, Antoine Marette.
Sur ces 6 législatives partielles, 5 sont liées aux dernières municipales. Les 8 députés ou suppléants de ces circonscriptions qui ont été élus maires ont choisi de le rester. car depuis la loi du 14 février 2014, le cumul des fonctions de députés et maires est interdit. Une députée et une suppléante sont devenues ministres, ce qui n'est pas légalement incompatible, mais dans la pratique, ça ne se fait quasiment plus depuis 20 ans. Des municipales suivies d'un nouveau gouvernement, c'est donc ce qui provoque ces 6 élections partielles, avec quelques enjeux. La majorité présidentielle va-t-elle sauver son siège dans la 11e circonscription des Yvelines? Le groupe communiste va-t-il conserver un député dans la 2e circonscription de la Réunion? En cas de défaite, il passerait de 16 à 15 députés, la limite pour conserver son groupe à l'Assemblée nationale. Quels que soient les résultats de dimanche, voire du 27, là où il y aura un second tour, ils devront être analysés avec prudence. Il s'agit d'élections partielles qui sont le terrain traditionnel d'une abstention élevée.
Le parquet de Paris a ouvert une enquête qui vise plusieurs clips et chansons du rappeur Freeze Corleone pour provocation à la haine raciale et injures à caractère raciste. Ce dernier vient en fait de sortir un album au succès commercial, plus de 5 millions d'écoutes en 24 heures. Sauf que l'un des titres fait l'apologie du nazisme et l'éloge du terrorisme, Anne Fauquemberg.
Freeze Corleone, 28 ans, c'est l'un des rappeurs qui monte. Il est connu pour avoir importé en France un style de hip-hop américain caractérisé par la violence de ses textes et de ses clips.
Les bonbons sont remplis de cocaïne. Flex. Dacadine en guise de protéines.
Dans ce clip, Gazo, rien de répréhensible juridiquement, contrairement au dernier album selon la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA qui a aussi découvert d'autres dérapages plus anciens jugés antisémites. Son directeur général, Stéphane Nivet, se demande comment l'industrie culturelle peut laisser passer de tels propos.
En 24 heures, il a eu 5,2 millions d'écoutes sur Spotify. Donc c'est quelqu'un qui a une audience considérable, qui génère aussi des flux et des revenus à des producteurs, à des distributeurs. Donc c'est aussi la démarche qu'on a entamée. Évidemment, il est heureux que les pouvoirs publics aient décidé de saisir de cette question. Nous, on veut aussi que les pouvoirs privés se saisissent de cette question. Nous, on est aussi sur cette responsabilisation des producteurs culturels.
Le sujet n'est pas nouveau. L'année dernière, une affaire du même type avait visé un autre rappeur, Nick Conrad, condamné en première instance à 5000 euros avec sursis après son clip « Pendez les Blancs ». Selon Stéphane Nivet, le juge avait alors expliqué que si la liberté d'expression peut être admise dans un environnement plus large et permissif s'agissant du rap, dans certains cas, la limite est franchie entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine.
Anne Fauquemberg pour France Culture. Dans les prisons, elles ne représentent que 3,5% des détenus. Les femmes minoritaires dans le milieu carcéral et victimes de traitements inégalitaires. Laura Dulieu s'est penchée sur cette question pour le grand reportage de ce vendredi. Elle est notamment allée à Marseille, prison des Baumettes, où elle a rencontré Émilie Lefort. Cette conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation auprès des femmes constate que même les bâtiments neufs de la prison entretiennent les inégalités.
Il n'y a pas de quartier de semi-liberté pour les femmes ici, donc au niveau des propositions d'aménagement de peine, voilà, il peut y avoir le bracelet électronique, la libération conditionnelle, le placement extérieur, mais finalement la semi-liberté, il y a un quartier de semi-liberté ici pour les hommes et pas pour les femmes. Elles peuvent venir d'autres régions parce qu'il n'y a pas de centre de détention dans ces régions-là. Et donc ça les prive parfois de visites de leurs proches. Et parfois, les projets de sortie sont plus compliqués à construire parce qu'il faut travailler avec des partenaires qu'on ne connaît pas particulièrement, qui ne sont pas à Marseille. Et il faut faire le relais. Là, récemment, voilà, j'accompagne une personne qui prépare un projet vers Narbonne. Donc, c'est toujours plus compliqué pour faire les permissions, pour les entretiens avec les structures partenaires à l'extérieur. C'est plus compliqué. Les femmes n'ont pas accès à la structure d'accompagnement à la sortie qui est dédiée aux hommes. Et il y en a plusieurs en France, mais les femmes détenues n'y ont pas accès. Et je trouve que c'est dommage parce que ça sert de réel tremplin vers la sortie, à mon avis.
Des propos recueillis par Laura Dulieu qui vous proposera une immersion dans la prison des Baumettes à Marseille de 17 à 18 heures ce soir sur France Culture. Un grand reportage sur la question du genre en prison réalisé grâce à Annie Brault et présenté par Aurélie Kiefer. Et le patrimoine, est-ce une question de genre? A priori non, sauf qu'une association a constaté que les journées du patrimoine mettent trop souvent à l'honneur des hommes, architectes, musiciens, peintres. HF, c'est le nom de l'association, Hommes femme. HF organise donc des journées du matrimoine depuis 6 ans. L'idée est de ne pas oublier les créatrices qui ont participé à notre patrimoine culturel. Ce week-end, l'Île-de-France va notamment célébrer Louise Farinck, la première femme à avoir écrit des symphonies au 19e siècle. Benoît Grossin a rencontré la pianiste concertiste Solène Pereda, défricheuse, si l'on puis dire, de ses compositrices du passé.
Je viens de vous jouer un extrait de la valse brillante de Louise Farinck. C'est très compliqué de la trouver en partition. Elle n'est plus éditée. Et pourtant, c'est la première à composer une symphonie. C'est la première femme à être professeure au Conservatoire de Paris et à obtenir l'égalité salariale par rapport à ses homologues masculins. C'est une très grande compositrice qui a eu un énorme succès, mais qui a été oubliée comme des centaines d'autres. Sur 3 siècles d'histoire de la musique classique, on oublie toujours les femmes. Tout le monde connaît ce prélude. D'après les dernières analyses, il semblerait que ce prélude soit de la main d'une femme, Magdalena Bach, et non Jean-Sébastien Bach. Cela prouve encore une fois que les femmes n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent. Toutes ces compositrices, souvent oubliées de l'histoire, je pense notamment voilà, à Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, qui est quand même, on va dire, un peu plus au devant de la scène, mais il y a aussi Germaine Taillefer, qui ont été mises de côté, mais qui font partie de tout un pan de la musique classique sur 3 siècles.
Matrimoine pour une véritable inclusion des femmes dans l'héritage culturel. C'est aussi un article en longueur à retrouver sur franceculture.fr dès ce matin, à la veille de ces journées du matrimoine et du patrimoine. Les averses et quelques orages arrivent par le sud-ouest ce vendredi. Elles remontent lentement vers le nord la nuit prochaine. D'ici là, le soleil sera encore bien présent. Ce matin, il fait 14 degrés à Lille, 16 à Paris, Rennes, Dijon, 20 degrés à Lyon, 23 à Bordeaux et à Perpignan, Guillaume.
Merci Clara Lecoq.